Le psaume sous les étoiles, chapitre 5. C'est ainsi que je pris les armes dans le désert et devins l'ami intime de Jean Cavalier et commandant d'une brigade de sa troupe. Je n'ai pas le dessein de parler longuement de ce petit pâtre qui, avec la bande de paysans qu'il allait improviser, devait battre quelques mois plus tard les vieux officiers de Louis XIV. Âgé de 21 ans, il en paraissait à peine 17. Petit de taille, la tête un peu grosse, le cou court, rien en lui ne retenait l'attention quand il avait les yeux baissés. Mais s'il les levait, on était tout de suite conquis par son regard. De ses yeux grands et noirs, infiniment doux et rêveurs à de certaines heures, à d'autres impérieux et ardents, émanait une puissance indéfinissable à laquelle on ne résistait point. Chez lui, le rêve s'alliait de façon surprenante à l'esprit de décision le plus vif et le plus net. Son ardente foi huguenote l'exaltait des objets les plus terre-à-terre, où il excellait, au sommet de l'inspiration et de la prière. Il était devenu, en quelques jours, le prophète entre tous vénéré du peuple. Et il exerça bientôt sur sa troupe un pouvoir absolu jusqu'au droit de vie et de mort qui ne lui fut jamais contesté. Dans notre attroupement, il y avait, on le sait, que de misérables paysans, conduits par des paysans presque illettrés, comme Cavalier, Roland, Castanet, Joanny, etc. Plusieurs anciens soldats de l'armée étaient venus nous joindre et dresser la troupe à la manœuvre. Ils se nommaient Ravanel, Abdias Morel, dit Catina, Antoine Dujot, dit Rastelet. Et enfin, le capitaine réformé Isaac Espérandieu nous avait apporté l'inappréciable concours de son expérience et de son jugement. Mais je laisse à l'histoire le soin de dire ce que furent nos troupes, nos courses, nos combats. Pour moi, dans ces heures de fièvre et de fureur, je n'ai guère songé qu'à Florette, et c'est d'elle que je veux parler. Pour la délivrer, je faisais 100 projets, dont Cavalier me montrait sans peine l'enfantillage. Jusqu'à la fin de novembre, il me fut impossible d'avoir la moindre nouvelle de ma fiancée. Cependant, Lucrèce la Vivaroise, une de nos sœurs qui prêchait au désert, avait pu s'installer dans Nîmes pour y nouer des intelligences avec le couvent des Ursulines. Le 10 décembre, enfin, elle revint au camp m'apportant une lettre. Avec quelle angoisse fébrile je la lus. Florette me contait sa triste existence au couvent. On lui avait coupé les cheveux, mais on ne la maltraitait pas. Seulement, comme elle se maintenait ferme dans sa foi, on lui avait donné jusqu'à la Noël pour abjurer. Ensuite, on la conduirait à la tour de Constance. Elle ajoutait « Isabeau est venue me voir. Elle a passé toute une journée avec moi. Si tu savais, Jean, comme elle me serrait dans ses bras, ne faisant que pleurer. Ici, tout le monde l'aime, et son nom me protège mieux que tout. Elle n'a qu'à dire certaines paroles, et toutes les portes s'ouvrent pour elle. Ah, si elle voulait me faire évader !» Ce dernier mot fut pour moi comme une lueur d'espérance, et je résolus de me rendre la nuit à la Liquaire pour y solliciter le secours d'Isabeau. Cavalier me dit « Avise-toi d'être pris au piège. La Liquaire est certainement surveillée de près, car on devine que tu peux avoir à t'y rendre. » Et comme il vit que ma décision était prise, il ajouta « Je ne te laisserai pas aller seul là-bas. » Donc, nous quittions le bois de Vacquières le 17 de décembre, un peu après minuit, avec une demi-brigade de 20 hommes, et par chemins sylvestres et travestres, nous arrivions à la Liquaire sur les 4 heures du matin. J'y étais venu bien souvent au temps de mon enfance, et par cette nuit claire, je reconnaissais les grands massifs d'ormeaux, de chênes verts, de micocouliers qui entouraient la maison des champs, le rustique et confortable château de mon cher maître Baduel. La grille des jardins étant fermée au bar, il me fallut enjamber le mur d'enceinte avec l'aide de Cavalier, qui me recommanda de ne point m'attarder car nous n'avions plus guère que 2 heures de nuit. Ayant fait le tour des bâtiments, je m'arrêtai bientôt, fort ému, devant la chambre d'Isabeau, située à un plain-pied élevé sur 4 marches de perron. Avec un peu d'effort, on pouvait atteindre le rebord de la croisée. Je ne savais comment attirer l'attention de mon ami d'enfance sans l'effrayer ni réveiller les gens du château. Quand je songeais à la vieille chanson de la Jeannette que je lui avais apprise jadis au Montredon et qu'elle aimait beaucoup. Je me postais sur une basse branche d'yeuse, à proximité à hauteur de la fenêtre de sa chambre, et commençais à chanter à mi-voix cette cantilène en langue d'oc qui se traduit à peu près ainsi. La Jeannette se lève, ah mon Dieu, que ferai-moi ? La Jeannette se lève, 3 heures avant jour. N'en prends sa quenouillette, ah mon Dieu, que ferai-moi ? N'en prends sa quenouillette avec son petit tour. Un léger bruit se fit, une lumière filtra, la croisée et les volets s'ouvrirent. Isabeau, sortant de son lit, fouillait des yeux les sombres ramures. Je retenais mon souffle, n'osant parler, et le cœur me battait. N'entendant rien, ne voyant rien, elle crut avoir rêvé, referma la croisée, mais non les volets, et, après avoir prié longuement, se mit à la toilette du matin. Dieu, quelle apparition ! N'était-ce point Florette que je voyais ? Elle lui ressemblait d'une manière étonnante, et sans doute diabolique. Elle allait et venait dans la chambre avec les mêmes gestes que sa sœur. Elle avait surtout une façon de se pencher vers son miroir en nouant sa chevelure, qui était toute à ma fiancée. Je continuai ma chanson en sourdine. Je disais le pauvre amour de cette Jeannette et de son ami Pierre, et comment la mauvaise mère dit à sa fille qu'elle pendra son ami, et que Jeannette lui répond « Alors, ma mère, vous nous pendrez tous deux et nous enterrerez au chemin de Saint-Jacques. » Dans la chambre, Isabeau s'était immobilisée. On eût dit qu'elle écoutait un rêve lointain. Je haussai un peu la voix. « Le couvrirai de roses, ah mon Dieu, que ferai-moi, le couvrirai de roses et moi de toutes fleurs. » Alors, la chère fille se précipita vers la croisée et l'ouvrit. « Isabeau, lui dis-je à voix basse, c'est moi, n'aie pas peur. » Elle étouffa un cri. « Toi, c'est toi, mon Dieu, c'est toi. Et que viens-tu faire ici, malheureux ? Ne sais-tu pas que ta tête est mise à prix et que les fusiliers te guettent aux environs de la Liquaire ? Ah, fuis, je t'en conjure !» Mais déjà saisissant de mes mains l'appui de la croisée, d'un seul effort j'avais bondi dans la chambre. Je tenais dans mes bras ma grande amie de toujours et lui disais « Tais-toi, Isabeau, ne me trahis point. Cher, cher Isabeau, aie pitié de nous pour l'amour de Dieu. Ne suis-je plus ton frère, Jean ?» Elle me dit, comme avait dit Florette, avec le même accablement « Non, tu n'es plus mon frère. » Et j'étais effrayé d'entendre cette voix qui me venait comme d'une autre. Elle s'assit, se cacha le visage dans ses mains. « Ah, Jean, dit-elle, est-il possible que tu ajoutes à nos deuils par des crimes épouvantables ? Dieu me châtie durement de l'affection que j'avais pour toi, puisqu'il m'a réservé de te voir couvert d'opprobre. N'as-tu pas de remords, malheureux, des forfaits dont se souillent vos bandes ? Et quel espoir insensé vous aveugle ! Ne voyez-vous pas l'abîme où vous précipitez le pays, le gouffre béant où vous allez vous engloutir ? Car tu penses bien que force restera au roi et que vous périrez tous misérablement de la main du bourreau. Nous le savons, Isabeau, nous avons les devis de M. de Baville. Il va quadrupler le nombre des échafauds où chaque jour les nôtres bravent la mort en chantant des psaumes. Il ne sait pas que leur martyr multiplie notre force et nous rendra invincibles. Le roi de Paris ne peut rien contre les enfants de Dieu. Tu perds le sens, pauvre fou. Si le roi s'appuyait seulement sur sa puissante armée, ce serait peu de choses sans doute, mais il fonde sa force sur l'Église éternelle, contre laquelle vos puissances d'enfer ne prévaudront jamais. Ah, je t'ai trop écouté, Jean. Va-t'en, je t'en supplie. » Je lui pris les mains et la regardai. « Si tu me chasses, Isabeau, quel recours me restera-t-il au monde ? Tu sais que j'y suis seul et proscrit. » Elle se mit à pleurer silencieusement et dit « Je n'ai pu quitter mon aïeul pour aller voir Florette depuis le mois passé, mais par Madame d'Herbaudouze, je viens d'apprendre qu'elle allait être confirmée dans la vraie foi, à Noël. » Je l'interrompis avec violence. « Confirmée ou jetée dans la tour de Constance, ne le sais-tu pas, Isabeau ? Elle n'abjurera certainement pas la religion du désert. Allons-nous la laisser emmurer dans le tombeau d'Aigues-Mortes ? Il n'est point ici question de foi ou d'hérésie, mais de pure humanité. Il faut qu'avant la Noël, tu la fasses évader, Isabeau. Il le faut et tu le peux. » « Insensé ! Que me demandes-tu ? Trahir les dames du couvent, qui furent des mères pour moi, et tu voudrais que je charge ma conscience d'un pareil péché ? Préfères-tu que ta sœur soit enterrée vivante comme les Idelettes ? La religion a donc étouffé en toi toutes les voies de la nature. Tu n'as plus de place en ton cœur pour ta petite Florette, que tu aimais tant jadis, avant que l'infernale cabale vous eût peu à peu séparé. Rappelle-toi, au Montredon, comme elle était petite quand tu avais déjà 5 ans. Isabeau, on eût dit une souris rose qui furetait, grimpait partout. Elle était ta poupée vivante, et le soir dans son berceau, tu la regardais dormir, émerveillée. Ah Jean, je la chéris toujours en mon cœur. Mais songe qu'on lui a rasé la tête, Isabeau. Oui, songe qu'on lui a coupé les cheveux. Cela ne te fait-il pas pitié? Quand il se dénouait au soleil, on eût dit un ruisseau d'or vivant. C'est toi qui le disais. Tu les caressais de tes mains, tu baignais en eux ton visage. Elle éclata brusquement en sanglots. Oh, comme tu l'aimes! Oh, comme tu l'aimes! Oui, je l'aime, et si tu ne me la rends, je mourrai, Isabeau. Tu ne peux pas savoir, non, tu ne peux, ma chérie, savoir combien je l'aime. Ah, Dieu, je ne puis le savoir, dis-tu. Quand donc cesseras-tu de me torturer? Si je le sais, ton amour, mais demande-le à ces murs, à ce lit, demande-le aux arbres du parc témoin de mon supplice, et ils te le diront. J'ai beau prier, j'ai beau supplier la mère des 7 douleurs pour qu'elle écarte de moi cette coupe de poison, je m'y abreuve tous les jours. Tous les jours, j'en vis Florette, la prisonnière. Tous les jours, ton amour pour elle est planté en moi comme un dard aigu. Car il faut que tu sois aveugle-né, ô Jean, pour n'avoir jamais lu dans mes yeux, dans mon cœur, dans tout mon être, que je t'ai toujours aimé, que je t'aime. » Je me dressai, pétrifié. Isabeau était tombée à genoux, le front contre son lit. « Ah, malheureuse, gémissait-elle, qu'ai-je dit? Quel démon a descellé mes lèvres? Est-il possible que j'aie trahi mon secret fatal? Pardonne-moi, frère, oublie mes paroles folles. La terre et le ciel m'abandonnent. » Elle se tut un instant, puis elle commença à prier. « Sainte Marie, Mère de Dieu, secourez-nous. Par votre appui jusqu'à ce jour, j'ai tout sacrifié au devoir, et j'avais déposé mon détestable amour au pied de vos autels, et maintenant voici que je défaille. Étoile du matin, illuminez la nuit semée d'embûches. Rose mystique, tour de David, priez pour nous, refuge des pécheurs, tour d'ivoire, recueillez-nous, reine des anges, trône de la sagesse, vase d'élection, priez pour nous. Étoile de la mer, gardez-nous du naufrage, porte du ciel, ne vous fermez pas pour nous, pauvres pécheurs, miroir de justice, vierge fidèle, mère admirable, priez pour nous. » Elle mêlait plaintivement sa prière aux litanies de la Vierge, et ces litanies tombaient sur mon cœur goutte à goutte comme une rosée bienfaisante. Elles me pénétraient, me ravissaient. Jadis, le bon curé Bastide me les faisait réciter à genoux devant une fenêtre, toujours la même, qui ouvrait du côté de Saint-Martin l'Ensucle et encadrait le joli paysage de l'Aubre, en sorte que plus tard, quand je voyais l'Aubre, j'entendais les litanies, et ce domaine était pour moi le clos de la Vierge Marie. En écoutant maintenant la pauvre Isabeau égrenée près de moi, les litanies mystiques, je revoyais brusquement ce paysage de notre chère Valfrancesque, et une foule de souvenirs faisait l'assaut de ma mémoire. Je tombai à genoux près d'Isabeau. « Ah » continuait-elle, « de mon cœur blessé montaient les larmes expiatoires. Pauvre innocente, j'avais vécu mes jeunes ans, ne connaissant point que je couvais ce cruel amour. Il se cachait sous une pure et fraternelle tendresse. Oui, c'est dans mon jardin d'aurore, parmi les lys immaculés de mes rêves d'enfant, que le serpent du mal s'est glissé. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, secourez-moi, car je succombe. » Un silence régna. Je retenais mon souffle, pénétré de tendresse et d'épouvante. Puis, sans oser regarder Isabeau, je lui pris doucement la main. La lampe achevait de se consumer sur la crédence et une pâle lueur annonçait l'aube, dessinant les massifs du parc. « Ma sœur Isabeau, murmurai-je, ma chère, ma douce Isabeau, pardonne-moi le mal que je t'ai fait. Je n'ai rien à te pardonner, Jean. Nous sommes des malheureux, joués d'un terrible destin. Rappelle-toi notre heureuse enfance en Valfrancesque. Je n'y étais heureuse qu'avec toi, Jean. Mais déjà, tu préférais Florette et j'en souffrais, sans bien m'en rendre compte. Te rappelles-tu ces tristesses sans cause qu'on me reprochait si souvent? Elles venaient de là, et peu à peu, j'évitais de retourner au Montredon. Et c'est ainsi que tu as mieux aimé le couvent, pauvre Isabeau. Et pourtant, Dieu sait comme tu me fus toujours cher. Il y a pour toi dans mon cœur une tendresse infinie qui ne se peut comparer à rien et qui est peut-être le meilleur de moi. Je le sais, Jean, tu as toujours été mon grand frère chéri. Dans cette affreuse aventure, tu n'as rien à te reprocher. C'est moi qui eus tous les torts. Et comme je voudrais ne pas t'avoir dit ces folies, restons là, veux-tu, ne bougeons pas, ne parlons plus, oublions tout dans le silence de la nuit. Et nous demeurâmes ainsi de longs instants sans parler, cependant que des pensées fiévreuses me battaient aux tempes. Toute une partie de mon passé se dévoilait brusquement à moi, et je me rappelais avec une précision implacable une foule de circonstances où j'avais dû faire cruellement souffrir la pauvre créature. Je lui dis à voix basse, « Pardonne-moi, petite sœur chérie, car je n'ai su ce que je faisais. » Mais je sentis alors que sa main se refroidissait dans la mienne. « Qu'as-tu, Isabeau ? » dis-je inquiet. Elle ne répondit pas, et je m'aperçus avec effroi qu'elle s'évanouissait. Je la portai sur une longue chaise, et comme je compris qu'elle manquait d'air, j'ouvris la croisée, dégrafai le haut de sa robe de chambre et lui fis respirer des sels que je trouvai heureusement dans une armoire. Et bientôt, je connus avec joie qu'elle reprenait connaissance. Je m'étais agenouillé près d'elle. Quand elle ouvrit les yeux et qu'elle me vit, elle sourit. Et voici, j'eus une sorte d'éblouissement. N'était-ce point le sourire enivrant de Florette qui tout à coup me faisait battre le cœur? Et cette voix, n'était-ce pas la voix de Florette qui disait « C'est toi, Jean, te voilà, c'est toi !» J'étais comme ensorcelé. Penché sur elle, ce fut encore l'haleine de Florette que je respirais, fraîche et parfumée comme la brise des prairies d'avril. Je me sentais sombrer dans une extase accablée. Les fatigues de ma vie violente, le manque de sommeil, les privations, je ne sais quelle tension des nerfs aboutissaient à une sorte de dédoublement de mon être. Je ne savais plus où j'étais, qui j'étais. Je redevenais un enfant, un être de pur instinct qui réclame surtout de la tendresse et des baisers. Quant à Isabeau, elle était comme absente des réalités où nous nous débattions. Elle fixait sur moi ses grands yeux de rêve et nous nous regardions dans la pénombre sans plus penser à rien. Alors, je la voulus baiser au front. Mais une force invincible nous enlaça l'un à l'autre et joignit nos lèvres. Terrible et voluptueux cauchemar! Étions-nous éveillés? Quelle folie soudaine abolissait en nous le passé? Submergé dans un flot de désirs brutal, notre vieille amitié fraternelle. Je ne me demandais point quelle était cette superbe fille que je tenais dans mes bras. Elle y palpitait, elle était la beauté, la caresse féconde, elle était la jeunesse, le creuset de la vie, et resserrant mon étreinte, je m'abîmais dans les mortelles délices de ce baiser. J'étais en proie à une hallucination de désastre, et j'allais peut-être aux malédictions devenir un criminel monstrueux, quand soudain des coups de feu retentirent. Après un long soupir, Isabeau se dressa. « Ah, maudite » dit-elle, « je suis maudite. Adieu, Jean, adieu pour toujours. » Cependant qu'épouvantée, sans proférer une parole et tout pénétré d'une horreur d'inceste, je sautai rapidement dans le jardin et me sauvai par où j'étais venu, sanglotant dans les bras de cavaliers qui guettaient mon retour et ne faisant que gémir. « Damné ! Je suis damné !» Mais lui, sans s'émouvoir, me dit avec autorité, « Prends ton fusil, vite, il n'y a pas une minute à perdre. Je l'avais bien prévu, c'est le capitaine Bimard qui nous a éventés et veut nous détruire. » Je restai 3 jours dans un état de prostration qui inquiéta Jean Cavalier. Je lui avais tout dit et il était saisi d'horreur et de pitié. Or, le 22 de décembre, au soir, dans les bois d'Euzé, l'un de nos émissaires, déguisé en vieille paysanne et qui arrivait de Nîmes, me remit une lettre dont l'aspect me troubla singulièrement, car je reconnus l'écriture d'Isabeau. Et je lus ce qui suit en tremblant d'émotion. « Jean, mon ami d'enfance, nul souvenir ne se lèvera contre toi dans mon cœur, et seul, je dois être puni d'un instant de folie dont la marque sur ma chair me brûle et me terrifie. Je prierai tellement le prince de miséricorde et pour toi et pour moi qu'il nous délivrera un jour de ce cruel remords. Voici, je suis venu voir Florette et n'ai pu la décider à se convertir, hélas. J'avais obtenu qu'on n'exigeât pas trop d'elle. J'avais intéressé le père de la Carrière et Madame d'Herbe-Boudouze en sa faveur, tellement qu'on se fut contenté d'une adhésion tacite à nos saintes vérités. Elle n'a voulu rien entendre, rien concéder. Son obstination me plonge dans le désespoir. C'est en vain que je lui ai dit qu'elle serait tout aussitôt libre, car on me l'avait promis, qu'elle pourrait revoir les siens et te revoir aussi, sans doute, ô Jean, toi qui es son fiancé, toi qui lui appartiens et à nul autre. Florette a été inébranlable, et sa fermeté serait digne d'admiration si elle avait pour objet la bonne cause. Malgré tout ce que j'ai tenté, je n'ai pu l'arracher à l'erreur. Elle a déclaré violemment au père de la Carrière, en ma présence, qu'on pourrait la torturer, qu'elle ne renierait jamais la foi de ses pères. En sorte que, le 26 de décembre, elle doit être menée à la tour de Constance. Jean, cette Florette qui est à nous deux, je l'aime trop pour la voir souffrir, et fût-ce au prix de ma liberté, je veux la délivrer. Écoute-moi bien, samedi soir 23 de décembre, à 4h30, la voiture qui m'a amené ici repartira pour la Liquaire. Elle sera conduite par notre vieux cocher, Salomon Cambecrosse, qui nous est tout acquis. La personne qui l'occupera sera munie de tous les laissez-passer désirables et se nommera pour tous Isabeau Baduel. Mais tu m'as compris, ce sera Florette. Et moi, je resterai ici, à sa place, dans sa cellule. Oui, bien qu'elle s'y refuse, la pauvrette, je compte la décider à partir ainsi. Et s'il le faut, je lui ferai prendre un narcotique et la mettrai dans la voiture. J'aurai ici toutes les facilités qu'il faudra. Tu sais comme nous nous ressemblons. On la prendra volontiers pour moi. L'itinéraire sera par les carrières de Barutel et la Calmette, et la voyageuse aura pour programme d'aller coucher à Moussac, selon notre étape ordinaire d'hiver. Voilà, vois maintenant ce que tu dois faire. Qu'adviendra-t-il de moi? Sans doute vais-je encourir des punitions graves. Je te prie alors de veiller sur mes pauvres parents. Mion se fait bien vieille. Si ta mère et Nicole ne sont pas proscrites, peut-être pourrait-elle me remplacer à la Liquaire auprès de Guillemette, qui décline chaque jour, et de mon père qui fait pitié à voir. Adieu, Jean. Oublie ma folie. Si Dieu me pardonne, je n'aurai pas assez de jours pour me prosterner devant ces saints autels. Adieu, mon frère. Adieu pour toujours. Et puisse le Seigneur te toucher de sa grâce et te ramener au devoir. À mesure que je lisais, les sentiments les plus divers m'agitaient. J'étais ému de tendresse et de pitié pour la pauvre Isabeau. Je lui vouais une infinie reconnaissance. Je souffrais d'être son bourreau et de le savoir maintenant. Puis tout à coup, une aube radieuse se levait à mes yeux, un cantique de victoire éclatait à mes oreilles. Florette ! J'allais revoir Florette. Je ne pensais plus qu'à cela. Tout le reste était aboli. Le lendemain, ayant passé la journée à l'abri des bois de Dion, avec 10 cavaliers et une monture de main, nous nous glissions à la tombée de la nuit vers les carrières de Barutel, où sans difficulté nous enlevions Florette. Je l'étreignis longuement, sans pouvoir d'abord dire un mot, puis au bout d'un moment, je congédiai le vieux cocher de Baduel. « Père Cambecrosse, lui dis-je, continuez seul votre route. Dites à mon parrain que je l'aime de tout mon cœur et que j'emmène au désert pour l'y épouser cette Florette qu'il me donna, en attendant ce qui ne tardera guère que nous rentrions tambour battant et en triomphe dans nos foyers restaurés. Ancelle, Florette, Ancelle, aux Ardes. Il te faut tout de suite apprendre au bien-aimé à chevaucher parmi les ombres, en flairant de loin Jeanne Louve, le féroce veneur qui découple sur nous tous ces chiens allemands. » Je l'aidai à sauter sur la cavale Camargue, amenée là pour elle, et tout de suite on se mit en route. Le mistral sifflait dans les branches, la lune aux trois quarts pleine était sur nous, une force inconnue m'exaltait. « Ah, ma grande, ma fine, ma jolie, tu m'es rendue, j'ai tant crié vers toi. » Dieu m'exauce, te voilà, est-ce possible après tant de deuil et d'angoisse? Je chevauchais près d'elle, un peu en arrière de nos compagnons. Je distinguais mal ses traits dans la pénombre, mais je la frôlais, je la respirais toute. J'avançais ma main pour m'assurer qu'elle était bien là, que je n'étais pas le jouet d'un songe. Puis j'arrêtais nos montures qui, dociles, se touchaient. Je l'étreignais d'un bras violent, je la serrais à la faire crier, lui baisais le visage avec une sorte de fureur. La pauvrette était un peu effarée de se trouver ainsi, brusquement en plein champ, la nuit parmi des hommes de mine inquiétante et tout assaillie de mes baisers. Elle murmura « Tiens-toi bien près de moi, mon frère Jean, ne me laisse pas, j'ai un peu peur. Peur ? Ah, vaillante, je te connais, tu es saisie du grand air comme l'oiseau à qui on ouvre la cage, mais tu n'as pas peur, je le sais, et comme lui, demain, tu vas prendre ton vol au soleil, et alors tu verras mes osards qui, ce soir, t'effarouchent, comme ils sont bons et braves. Je le sens bien, j'ai confiance en eux. Maintenant que je t'ai, Florette, qui donc saurait nous vaincre ? Tu es le génie de nos montagnes, et nul ne les pourra violer si tu en défends l'entrée. Ah, disait-elle, remercions d'abord le Seigneur qui m'a délivré. Prions pour Isabeau qui va être punie, car elle m'a sauvé. Pensant à elle, j'ai le cœur gros, mon frère, et cette peine avive nos deuils cruels. Les deuils et les peines sont des compagnons sûrs, Florette. Ils ne nous abandonneront point. Nous les retrouverons demain, debout, près de nous, et nous aurons le temps de pleurer, de nous souvenir dans la tristesse. Mais cette nuit, ma bien-aimée, c'est l'heure prodigieuse où tu m'es rendue. C'est la plus haute des joies d'amour et d'espérance qui m'enivre et tout s'efface qui n'est pas elle. Et je suis comme fou, Florette, en te respirant. Et si nous étions seuls, ah, vois-tu, je t'emporterai comme une proie parmi les œsières. Sa main frissonna dans la mienne. Ah, que je t'aime, ô Jean! Oui, serre-toi contre moi. Prends-moi. Je suis tout à toi. Tu es mon frère et mon époux. Comme j'ai souffert loin de toi. Parfois, je me désespérais, pensant que je ne te reverrais plus. Pourtant, j'avais confiance en Dieu. Je n'ai jamais cru que j'irais m'engloutir dans l'abîme d'aigue morte. Au fond de mon être, j'étais sûr que tu me délivrerais. C'est à Isabeau que nous devons tout, Florette. Ah, Isabeau, si elle n'était pas piste, elle serait un ange de Dieu. À ce moment, il y eut un arrêt dans la petite troupe, et Méric, notre guide, vint à nous. « Frère Jean, dit-il, il faut un peu vous hâter si nous voulons arriver à temps voulu. Soit dit sans offense, vous vous arrêtez tout le temps et nous sommes obligés de vous attendre. »« Sans quartier, mon ami, viens ça que je te présente à ma fiancée. » Et me tournant vers Florette, « Voici Méric, plus connu sous le nom de Sans quartier Courtevie, car les Irlandais et les Allemands qui lui tombent sous la main passent en général mal leur temps. Tu vois comme il a l'air méchant, avec sa grande barbe, et de fait, lui et Clarisse, dits porte-effroi, sont de grands massacreurs de dragons. Tu pourras, Florette, te fier entièrement à lui. Ah, tronc de padisque, frère Jean, dit Méric, bredouillant d'émotion. Tu as fort bien parlé, et je me mets au feu pour elle comme pour toi. Il s'approcha de Florette sans embarras, et lui baisa la main avec une sorte de dévotion. C'était un grand diable de 6 pieds, doué d'une force peu commune, et toujours prêt à rire et à boire. Incorrigible braconnier, tireur émérite, il préférait pourtant le corps à corps dans le combat, mais il y répugnait un peu à la baïonnette, usant plutôt de la crosse comme d'une massue. Il m'avait voué une affection à toute épreuve. Depuis que je l'avais sauvé de la mort, à la suite d'une furieuse ivrognerie compliquée de bagarres sanglantes, qu'il avait fait condamner par le conseil de nos anciens. Car, dans les camps de l'Éternel, on ne plaisantait point sur ce chapitre. Bout en train sans pareil, Méric avait la spécialité d'imiter tous les cris d'animaux, contrefaisant à s'y méprendre la chouette, le merle, la buse, le dindon, le paon, la vache. Et parfois, la nuit, dans nos camps, malgré défenses et menaces, il donnait le frisson aux plus braves en sanglotant comme un javanel, qu'on appelle aussi duganel, lutin fantastique dont la plainte redoutable et néfaste à qui l'entend tient à la fois du cri du petit duc et du bêlement lointain de la chèvre. « Où m'amènes-tu, aux arts farouches ?» me demanda Florette, un peu égayée maintenant. « Non loin de Tornac, petite fleur. Cavalier a tenu aujourd'hui une assemblée au Mascovi, près d'Alès. Il conduira ensuite les siens aux prairies de Lacano, parmi les bois de Topessargue, où nous devons rencontrer Roland et Abraham Mazel avec leur Sévenol. Une grande assemblée y est convoquée. Abraham y célébrera la Sainte Cène et bénira des mariages. Le nôtre d'abord, Florette, le veux-tu ? Ah, mon Jean, quelle joie, vivre toujours près de toi. J'ai pensé, Florette, qu'une fois mariés, nous irions à la haute blaquière du Pompidou et que je te laisserai avec ma mère et ma sœur. La femme chrétienne doit suivre son époux et je resterai près de toi, Jean, à moins que tu ne me veuilles point. Tu ne pourras pas, Florette, supporter les fatigues du désert. Et quelles seraient mes transes de te sentir exposé sans cesse aux pires dangers ? N'y es-tu pas exposé toi-même, Jean ? Et chevauchant et bavardant, Nous arrivions sur les 2 heures du matin aux lisières de Lézan, dans le mas du pauvre Souleyrol, condamné aux galères pour fait de religion, où sa femme, qui nous attendait, nous accueillit dans la chaleur de son cœur, nous restaura et nous fit fête. Puis elle mena ma chère petite, qu'elle avait grand besoin, dormir dans un bon lit bien chaud. Quant à moi, j'allais reposer avec mes hommes dans la fenière de la ferme.